Chapitre 60. J'avais fini par m'assoupir, le crayon à la main. Ce n'est que bien plus tard qu'Habermeyer vint me réveiller. Vous dormiez si profondément que j'ai préféré vous laisser vous reposer un peu. Vous êtes un type étrange. Cette nuit, vous vouliez me tirer une balle dans la tête, et maintenant vous veillez sur mon sommeil. Dehors, le temps était splendide, la lumière franche et le froid mordant. La dalle est assez grande. Nos hommes ont réussi à ouvrir un étroit passage dessous qui donne près d'une paroi de la cachette. Ils parlaient probablement de notre mur, celui qui n'avait que 2 jours d'existence. Je vais descendre. Je me glissais dans l'accès qui venait d'être dégagé, me faufilant entre les roches et la terre déchiquetée, et après avoir rampé quelques mètres dans ce qui restait de la galerie, j'atterris exactement là où la nuit précédente, un frère et moi avions essuyé une explosion. La maçonnerie semblait avoir 5 siècles. Les lentilles des vidéoscopes étaient couvertes de poussière. Personne ne semblait vouloir me suivre jusque-là. La galerie s'était effondrée. Son plafond s'était rabattu, descendant de plusieurs mètres. Seule notre construction l'avait partiellement retenue, l'empêchant d'écraser aussi la zone où je me trouvais. J'avais 2 choses à faire, tester les caméras et voir ensuite si la dalle serait assez solide pour que l'onde de choc d'une explosion puisse y prendre appui. Je sortis le cahier de mon sac et en arrachai une page. J'écrivis en majuscule « Si tu me vois, va à l'entrée des novices et tire une charge dans 1 heure. » Je présentai la feuille au vidéoscope en l'éclairant avec ma torche. Une voix venant de la surface m'interpella. Tout va bien? Pas de problème. J'étudie les structures. J'y jetai effectivement un coup d'œil. Dépourvu d'outils pour creuser, je ressortis. La lumière m'éblouit. 1 heure serait amplement suffisante pour qu'un de nos hommes rejoigne la crypte de la galerie des novices et tire un marron d'air. Je peux voir ce que vous avez comme explosif? Habermeyer fit signe à Zillerman. « Emmenez monsieur à la réserve et laissez-le prendre ce qu'il veut. » Bien que contrarié, Karl obéit et m'ouvrit la voie. Le cabanon leur servant d'entrepôt à munitions était à demi enterré et sévèrement gardé. Tous paraissaient très ennuyés que j'y pénètre. Zillerman se tourna vers moi en ouvrant la porte et déclara « Si un jour on m'avait dit que nous travaillerions pour le même camp, je l'aurais jamais cru. » Et vous auriez eu raison. Accélérez, on a 4 types à sauver. La salle était remplie d'un arsenal démentiel. Des lance-roquettes, 2 mitrailleuses lourdes, des grenades, une caisse de mine, des centaines de boîtes de cartouches. Et au fond, 5 caisses d'explosifs. Non mais ça va pas, m'exclamai-je. Vous vous croyez où? On est dans le sud-ouest de la France, pas au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous comptez faire de tout ça? Prenez ce dont vous avez besoin et dégagez, nous avons des hommes à secourir. Il n'y avait que l'embarras du choix, des explosifs soufflants, des brisants, des pains de toute taille, des mèches, des allumeurs électriques, des retardateurs. Je fis mon marché, déposant tout dans les bras de Karl, qui ne trouvait pas ça drôle. Puis nous retournâmes sur le site. Habermeyer vint me trouver, l'air sombre. J'ai fait annuler les engins de levage. Vous avez intérêt à réussir. J'ai promis de tout tenter, je le ferai. Tâchez d'en faire autant. Comment avez-vous l'intention de procéder? Je m'accroupis et sortis mon couteau pour graver un schéma dans la terre gelée. Je compte faire exploser une première charge assez faible le long du mur pour faire vibrer l'ensemble. Puis une seconde immédiatement après en opposition de souffle. Logiquement, la dalle bloquant votre fils sera soulevée comme par un décapsuleur. Vous êtes sûr de votre coup? On ne peut jamais l'être avec les explosifs. Mais ce procédé s'appelle un sifflet et on l'apprend dans tous les cours d'artificier. Comment êtes-vous certain que la dalle va rester en un seul morceau? Nous étions ici avant vous, il y a 4 ans. Ce sol... Nous l'avons étudié, C'est aussi ça, faire des fouilles. Je lui désignai le château qui nous surplombait majestueusement. Je connais chaque pierre de cet endroit. D'abord parce que je l'aime. C'est magnifique. Vous ne trouvez pas que la seule chose laide ici, c'est votre carnage? Sauvez mon fils et je trouverai beau tout ce que vous voudrez. Je me coulai sous la dalle, suivi par un de leurs hommes, afin de sonder le pied du mur sur lequel nous allions poser la moins puissante des deux charges. Je n'avais pas intérêt à me tromper dans le décalage des deux déflagrations. Dans moins de 10 minutes, je serais fixé sur le fonctionnement des caméras. Dès que je pouvais, je faisais un signe ou une mimique à ceux qui devaient être devant l'écran dans la salle de surveillance. Mon garde-chiourme ne remarquait rien. Si quelqu'un me voyait dans la cité, on pouvait trouver ça drôle. Sinon, j'étais le clown le plus inutile de la Terre, faisant ces pitoyables grimaces sous les gravats devant des caméras en panne. Je venais de ressortir, l'autre sur les talons, lorsqu'à la seconde près, j'entendis une détonation résonner longuement dans la vallée. Au moins, une des caméras marchait. Je n'avais pas fait mes grimaces dans le vide, et nous allions leur jouer le tour de passe-passe du siècle. Les hommes d'Abermeyer regardèrent au loin, en direction de l'écho qui continuait à courir sur les parois du pic. Sans doute des pétards au village, on est le 31 après tout. À présent que j'étais sûr que les vidéoscopes étaient opérationnels, je devais retourner au pied de notre mur pour envoyer un autre message. L'idée était simple. J'allais profiter de ma propre explosion pour masquer le bruit de celle de la bifurcation. Ainsi, Abermeyer n'entendrait rien, et nous aurions la paix, quelles que soient les fouilles qu'ils entreprendraient ensuite. Comment faire comprendre à mes compagnons à quelle heure j'allais faire exploser la dalle sans que les hommes qui me surveillaient se doutent de quelque chose s'ils trouvaient le papier? J'allais poser une énigme, une colle que seul Nathan pourrait résoudre. Je redescendis donc pour une dernière vérification. Ils me laissèrent faire. Pour eux, je ne représentais plus une menace. Après quelques minutes de réflexion, j'arrachai une nouvelle page et écrivis « Nathan, à l'heure de la première différence entre nous, dont on retranche le nombre de coups que j'ai tirés sur le concierge, fais briller le collier que nous avons assemblé ensemble et dont le fermoir est dans la chaussette. » Si quelqu'un d'autre tombait là-dessus, il ne risquait pas de comprendre. Il était 9 heures passées. Il me restait moins de 2 heures pour tout mettre en place. Avec cette énigme, l'explosion prenait une dimension qui dépassait le seul sauvetage des 4 hommes ensevelis. Si Nathan solutionnait l'équation, s'il trouvait les nombres nécessaires pour la résoudre, j'aurais enfin la certitude d'avoir réussi à partager l'esprit. Les 13 jours séparant nos dates de naissance constituaient la plus ancienne différence entre nous. La première, j'avais tiré sur le concierge à 2 reprises, soit 13-2. À 11 heures, tout devait exploser. À ce moment-là, j'aurais enfin la réponse à une obsédante question. Avais-je eu raison de t'embarquer dans cette aventure? J'espérais vraiment que le collier allait briller.